Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richet, Simon Buisson, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son ce soir, Stéphane Poitevin. Décidément, ce pape-là a tout pour plaire à ceux qui ne croient pas en lui. Le prosélytisme, une bêtise. L'homosexualité, qui suis-je pour en juger ? L'avortement, la contraception, il n'est pas nécessaire d'en parler en permanence. Ce pape-là, François, est bien de son temps, à l'aise dans son époque. Il tweete, il téléphone en personne à ceux qui lui écrivent, il se laisse prendre en photo sur les smartphones de ses nombreux fidèles. On pourrait dire qu'il vit à l'horizontale, c'est-à-dire à hauteur d'homme, et non plus à la verticale en surplomb, comme le faisaient ses prédécesseurs. En un mot, le pape François est moderne. C'est en tout cas l'impression qu'il donne. À travers ses sorties publiques, ses interviews, dont le très remarqué entretien accordé à une quarantaine de revues jésuites à travers le monde, sa façon plus collégiale de gouverner l'Église, son œcuménisme à marche forcée, tout le contraire de Benoît XVI, dont la démission spectaculaire n'aura que peu réussi à corriger son image de pape réactionnaire. Alors, première vue, la stratégie suivie par le pape François est la bonne, une forte popularité, un enthousiasme médiatique débordant, mais rien ne dit que la communauté des catholiques ne va pas finir par se lasser de ce guide un rien turbulent, rien ne dit non plus que les autres ne vont pas finir par regretter de ne plus pouvoir médire sur un pape à l'ancienne, comme l'écrivait la romancière Solange Biécharton dans une tribune du Monde publiée en mars dernier au moment de la renonciation de Benoît XVI. « Je veux un pape contre qui se révolter, je veux un pape qu'on puisse tous détester avec la même énergie, un pape avec un nom qui sonne bien dans les slogans, je veux pouvoir casser du pape. » Alors le pape doit-il être moderne? C'est notre sujet du jour. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir François V pour en discuter. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes prêtre jésuite, rédacteur en chef de la revue Études, qui est la revue française qui a publié cette longue interview du pape François, qu'on peut trouver en intégralité et gratuitement sur votre site revue-études.com. Je précise que vous avez publié aux éditions Lessius l'an dernier « Les jésuites et la science ». Pour discuter avec vous ce soir, Antoine Guggenheim, bonsoir.
Bonsoir.
Prêtre et philosophe, vous dirigez le pôle de recherche du Collège des Bernardins à Paris, collège qui se présente comme un lieu de dialogue entre l'Église et la société. Votre dernière publication, c'était aux éditions Parole et silence en 2011, pour un nouvel humanisme, essai sur la philosophie de Jean-Paul II.
J'ai publié cet été un commentaire de l'encyclique du pape François sur la foi.
Ah bah voilà, j'avais pas cette publication beaucoup plus actuelle. Notre troisième invité, c'est Olivier Bobineau.
Bonsoir.
Sociologue des religions, maître de conférence à Sciences Po. Alors vous, en 2013, on vous doit deux ouvrages. L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir dans l'Église aux éditions du CNRS. Et Charmant Collin, l'avenir en question, la fin des promesses, religion et politique face à l'imprévisible. Et puis, pour une fois, je ne suis pas seul pour vous interviewer, puisque nous a rejoint à la faveur de cette journée cause commune avec l'humanité, Paul Masson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef à l'humanité. Alors, je dois dire qu'quand on a su qu'on allait faire cette journée, on s'est dit quel sujet on pourrait bien leur proposer à l'humain. On va essayer peut-être de les sortir de sujets trop attendus. On vous a parlé du pape et la papauté. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse à l'humanité, peut-être en particulier depuis que c'est le pape François qui est au Vatican?
Oui, bonsoir. Merci d'abord à France Culture d'organiser cette cause commune. Et merci aussi de nous avoir proposé, suggéré ce sujet sur lequel on n'attend pas forcément l'humanité. Mais j'avoue que depuis l'élection du pape François, on en discute beaucoup plus dans la rédaction. On a une tradition longue à l'humanité de s'intéresser à l'Église. Une tradition qui s'est un peu perdue, mais que nous sommes en train de retrouver, puisque il y a pas si longtemps que ça, nous avons publié l'intégralité de l'appel du pape à participer à une solution pacifiste en Syrie. Et je pense que ça fait un moment que nous ne nous étions pas intéressés à ça.
En plus, c'est un pape qui dit qu'il n'a jamais été de droite, même si, oui. Alors sur la traduction, est-ce qu'il a voulu dire qu'il n'avait jamais été de droite? Est-ce qu'il voulait dire qu'il n'avait jamais été conservateur? François V, puisque c'est vous qui avez traduit ses propos pour la revue Études.
C'est effectivement un choix de traduction délibéré, puisque la formule italienne est tout à fait clairement, il dit de destra, c'est-à-dire de droite. Simplement, le contexte n'est pas politique, puisqu'il parle non pas de la situation en Argentine, mais il parle de sa manière de gouverner les jésuites en Argentine. Et il avait été accusé d'être très conservateur. Et il s'en défend Alors, il emploie l'expression de droite, mais j'ai pensé qu'il voulait dire, de fait, conservateur. Alors, bon, il faudra mettre une note en bas de page pour préciser le mot exact.
Alors, on va faire un petit tour de table. On va évidemment beaucoup parler du pape François ce soir, mais je voudrais d'abord qu'on essaie d'avoir une vision peut-être un peu plus globale sur ce que doit être le pape et sur ce qu'il doit être par rapport à cette question de la modernité. Olivier Bobineau, je vous repose en fait la question qu'on me l'a posée pour intituler l'émission. Le pape doit-il être moderne ?
Devoir dans ces deux sens, obligation morale, non, mais devoir dans le sens de nécessité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire autrement, oui. Oui, parce que aujourd'hui, dans les sociétés modernes individuelles libérales, eh bien, l'Église catholique n'a plus de pouvoir, n'a plus de poids, n'a plus d'influence. En France, aujourd'hui, c'est 2% de la population qui pratique. En 1945, c'était 56%. Et on voit bien le décalage, le hiatus, la crise profonde, anthropologique, entre d'un côté un système moderne qui propose l'émancipation de l'individu, et notamment le détacher de ses institutions pour l'émanciper, et de l'autre, un système catholique qui est parfois perçu sous son angle uniquement d'institution hiérarchique. Le pouvoir vient d'en haut, le pouvoir centrale. D'ailleurs, on y reviendra, mais François attaque cela, ce vaticanocentrisme, pour reprendre son expression. Et donc, on voit bien qu'il y avait un décalage très très fort, qui a été accentué par Jean-Paul II, plus encore par le professeur magistral qui était Benoît XVI. Et ce décalage fait qu'aujourd'hui, eh bien, ce pape, en effet, peut-être celui du rapprochement, pourquoi pas, entre les sociétés modernes et la papauté.
Antoine Guggenheim, ce rapprochement est essentiel pour le pape aujourd'hui, pour être audible, il faut qu'il puisse avoir un langage et une attitude qui soient entendus plus facilement que l'étaient ses prédécesseurs.
Donc voilà, si moderne signifie qu'une parole d'une institution religieuse ne peut pas venir d'en haut, mais doit venir et se proposer comme une parole parmi les autres, même si elle ne s'épuise pas dans l'instant. Et ça, évidemment, si moderne veut dire qu'il s'épuise dans l'instant, aucun d'entre nous ne le souhaite. Si moderne veut dire, comme le dit le philosophe Agamben, être contemporain de son temps, mais pouvoir prendre appui aussi dans des passés de référence, alors le pape doit être moderne en ce sens. Et le mot moderne, on le sait pas toujours, a été inventé au Moyen-Âge par les chrétiens pour essayer de qualifier le fait que le passé les intéressait, mais qu'ils ne se voulaient pas que des hommes de tradition, mais aussi des hommes et des femmes d'innovation.
Et je termine ce premier tour de table, François Hevé.
Je crois que ce qui est frappant, c'est une parole personnelle. Alors, c'est effectivement l'importance de l'individu, comme Bobineau le souligne, mais je mettrais en valeur la dimension très personnelle de sa parole et qui, du coup, donne la parole. Et je crois que c'est important. Ça rétablit le message chrétien, le message évangélique dans sa vérité. C'est-à-dire, c'est pas une affaire d'abord de doctrine, c'est une affaire de parole adressée à quelqu'un, de parole qui donne la parole, qui libère la parole. Et ça, je crois, alors, c'est moderne ou c'est post-moderne, très bien, mais je crois que c'est profondément évangélique.
C'est-à-dire, on peut être doctrinal tout en étant moderne.
C'est-à-dire, la doctrine est au service de la vie, et pas l'inverse. Et je crois qu'il le rappelle tout à fait clairement. Avoir des références dogmatiques, doctrinales, normatives, morales, évidemment, c'est nécessaire pour vivre ensemble. Mais l'essentiel, c'est l'engagement personnel.
Allez, Paul Besson a plein d'autres questions à vous poser.
Oui, j'enchaîne un petit peu sur la question. Est-ce que le pape vient de dire dans un entretien qu'il a donné à Republica qu'il souhaitait regarder l'avenir avec un esprit moderne ? Est-ce que ça signifie pour l'Église reposer un certain nombre de questions difficiles pour elle du point de vue de l'évolution de la société qui tiennent justement aux questions de l'avortement, de la contraception, de l'homosexualité ? Le pape en a parlé dans la plupart des entretiens qu'il a donnés.
Olivier Bobineau, alors cet entretien à La Repubblica, est-ce que vous le...
Ah oui, c'est assez étonnant, je dirais.
La Repubblica, je rappelle, c'est un journal italien qui est classé au centre-gauche, voilà, pour situer un petit peu.
Voilà, et donc c'est le directeur qui est un non-croyant, je dirais qu'il enfonce le clou. Et on va comprendre aussi les réactions des conservateurs, si l'on peut dire, y compris d'abord au sein de l'Église. Il enfonce le clou parce qu'il dit, dans le texte, que contrairement à ses prédécesseurs, il veut continuer à ouvrir l'Église à la culture moderne. Donc ses prédécesseurs, c'est Jean-Paul II et Benoît XVI, et il veut continuer à la suite du pape Jean XXIII et de Paul VI, cette ouverture à la culture moderne. Et pour reprendre tout à l'heure la définition, si l'on peut dire, littéraire de la modernité, moi je prendrais plutôt la définition de philosophie politique qu'il évoque d'ailleurs de la modernité, c'est-à-dire c'est le principe de coopération, le principe de collégialité, le principe démocratique d'horizontalité. Il l'évoque ainsi. Et en effet, lui Jusqu'à quand ? Ça sera une autre question qu'on pourra peut-être tout à l'heure aborder. Jusqu'à quand va-t-il pouvoir aller vers cette ouverture à la coopération, à la collégialité, à la modernité ?
Mais attendez, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, Olivier Bobineau, quand vous dites qu'il enfonce le clou, il enfonce le clou qui a commencé à être planté par ses prédécesseurs. Vous ne voyez pas une rupture ?
Non. Il enfonce le clou par rapport à l'entretien qu'il a fait et qu'il a donné aux revues jésuites, où déjà il tendait la main, il ouvrait vraiment, il manifestait des signes d'ouverture. Et là, définitivement, quand il condamne le prosélytisme, qu'il appelle une somptueuse absurdité.
Je crois que oui.
Et c'est absolu. Alors là, c'est vraiment tout à fait étonnant. Donc il tend la main, il ouvre. Une des questions qu'on peut se poser dès maintenant, c'est jusqu'à quand va-t-il pouvoir le faire ? Y a-t-il pas une poussée d'Archimède en sens inverse ? La poussée d'Archimède que j'appelle dans mon bouquin la poussée d'Archimède catholique, en sens inverse, c'est-à-dire que quand il y a un réformateur, eh bien il y a une force contraire qui peut s'exercer. Jusqu'à quand va-t-il pouvoir ouvrir ainsi les portes ?
Alors Antoine Guggenheim, jusqu'à quand va-t-il pouvoir ouvrir les portes ? Peut-être a-t-il prévu de ne pas les ouvrir si longtemps que ça ? Il a peut-être en fait une stratégie politique qui domine et qu'une fois qu'il aura réglé ses problèmes de pouvoir en interne, peut-être que le pape François reviendra à des modes plus traditionnels de gouvernance.
Si stratégie il y a, et à l'évidence il y a, puisque de prise d'imposition en prise de position, il y a une ligne qui se trace sous nos yeux, c'est de pouvoir être reçu à l'extérieur, à l'intérieur aussi, mais à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une double réforme à faire. Parce que ce que nous appelons la modernité et qui nous est si cher, qu'on peut appeler démocratie, est aussi en péril dans la société globale. Et en péril grave. Et donc, être moderne, c'est aussi une manière de mettre en tension la postmodernité, ou qui est une espèce d'hypermodernité, comme dit Gauchet. Et là, il y a un rôle de l'Église à jouer, où elle vient prendre soin de la parole humaine, en la défendant, en la protégeant, en lui redonnant sa dignité. Une parole politique digne de confiance, c'est quand même un usage extrêmement digne de la parole. Donc, je pense qu'il y a une réforme vers l'extérieur. Le pape est privé de parole si sa parole est trop complexe, si elle est trop doctrinale, voire doctrinaire. Et s'il veut avoir un impact dans le monde, il doit l'adapter. Alors ça, c'est tout à fait Jean XXIII. C'est comme Jean XXIII a commencé le concile.
Jusqu'où peut-il aller demander à Olivier Bobineau ?
Extrêmement loin. Extrêmement loin. Il suffit de regarder, par exemple, la liberté de Jésus pour se rendre compte que la liberté est extrême. Mais il faut que ça soit une liberté construite, pas une liberté qui est sans racine.
Voilà, François, si on se dit qu'il peut aller extrêmement loin, c'est peut-être d'abord et avant tout parce que l'Église catholique a justement énormément de retard et qu'il lui reste tellement de chemin à parcourir qu'on peut imaginer que le pape François a encore beaucoup de choses à faire et à bousculer.
Alors, c'est assez complexe parce que retard, ça suppose qu'il y a une avancée. L'histoire n'est pas linéaire, enfin, pas aussi linéaire qu'on veut bien le dire.
Non, je me disais, moi, pour aller extrêmement loin, il faut quand même qu'il y ait de la distance, justement, jusqu'à ce lointain.
Oui. Non, je pense que pour revenir à la question de Paul Masson tout à l'heure, par rapport aux normes, est-ce qu'il y a des normes à changer ? Je dirais, sa manière de faire, c'est peut-être moins, en premier temps, de changer des normes que de rétablir, j'allais dire, la prise en compte des circonstances. C'est-à-dire, bon, il y a des grands principes, je dirais, défense de la vie. Bon, mais après ça, il y a des cas particuliers. Et ce qu'il met en avant, c'est chaque situation, finalement, est un cas singulier. Alors, on dira c'est moderne ou post-moderne, si on veut, mais enfin, voilà, prise en compte de la singularité, c'est la casuistique. Merci de me rappeler ce mot. Hein, tout à fait fondamental de la théologie morale jésuite, la casuistique, c'est-à-dire la prise en compte des cas singuliers. Chaque situation est singulière. Ce qui ne veut pas dire qu'encore une fois, il faut peut-être changer quelques normes. Ça, je ne suis pas contre. Hein. Mais je crois que c'est important de...
Il me donne l'impression de lancer tout un tas de perches sur tout un tas de sujets, mais pas seulement sur la personne humaine. Il vient, par exemple, de déclarer des choses très importantes sur la question des femmes. Si je le cite, le génie féminin est nécessaire là où se prennent les décisions importantes. L'Église... Bon, je peux peut-être le dire comme ça, et peut-être assez en retard sur la question. Les femmes ne sont pas prêtres. Quand on se marie, on dit encore que les époux, que la femme doit fidélité aux époux. Est-ce que cette perche, finalement, elle peut donner des avancées sur cette question ?
François Levé.
Oui, tout à fait. Non, je crois. Après mon premier développement un petit peu général, je crois qu'il y a des dossiers qui doivent avancer. Je pense. Enfin, la question des divorcés mariés, effectivement, la question du rôle des femmes au niveau des structures de pouvoir de l'Église, il y a des choses...
Il donner de la place aux femmes dans l'Église.
Bien sûr, oui. Alors, sous quelle forme ? Bon, c'est pas évident, parce qu'il y a des questions symboliques qui sont engagées. Je veux dire, on parle de précipiter à vouloir trop vite changer, parce que là aussi, il faut tenir compte un peu de les mentalités ambiantes. Enfin, il y a, je pense qu'il y a une grande liberté a priori, mais après ça, il faut...
Olivier Bobineau, est-ce que vous pensez qu'il a vraiment envie de changer autant les choses? Alors sur ces questions qui sont des questions d'ordre sociétal, on ira ensuite sur le social, mais alors on parle de la place des femmes, il y a la place des divorcés, il y a le célibat des prêtres, il y a la question de l'homosexualité. Et quand il y a l'avortement, absolument, Paul Masson, quand il parle de ces questions de société, il dit notamment « Nous ne pouvons pas insister seulement sur les questions liées à l'avortement, au mariage homosexuel, à l'utilisation de méthodes contraceptives. Ce n'est pas possible. » Est-ce qu'il le dit en disant « ça n'est pas important » ou est-ce qu'il le dit parce que finalement c'est aussi peut-être une manière de mettre ces sujets-là de côté et de ne pas vraiment s'en occuper? C'est-à-dire qu'il y a un discours, mais que les actes risquent d'avoir du mal à suivre.
Alors, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la doctrine, où là, il ne va pas changer grand-chose sur le fond. Il ne le peut pas en tant que tel, puisque certaines choses ont été arrêtées par ses prédécesseurs. Je pense, par exemple, à la prêtrise des femmes. Cela est, ou même par rapport à l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, ou encore même l'homosexualité. La doctrine, le catéchisme de l'Église catholique de 94 est très stricte. En revanche, là où c'est très intéressant, c'est de voir l'interprétation qu'il donne. Je prends l'homosexualité, alors que le catéchisme, dans ses paragraphes, est très strict en disant « aucune approbation ne sera faite », point, fin du paragraphe. Lui, il dit ben, « voilà, on va changer un peu la posture, on va faire de la casuistique, on va regarder les cas particuliers, on va calmer le jeu. On va calmer le jeu, on va plus faire le père Fouettard ». Pour faire bref, on va plus faire le père Fouettard, on va se mettre dans une posture, et je repense à ce qu'il disait sur le lavement des pieds, il y a un passage important dans l'évangile de Jean, du lavement des pieds, où Jésus se met aux pieds des disciples, et puis les apôtres sont surpris, de dire, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est un esclave qui fait cela, surtout que les pieds sont bien crottés à l'époque, hein, on n'a pas une douche par jour, et donc là, quand même, on a affaire à un pape qui est capable de reprendre cette image pour dire, eh bien, il faut changer notre posture, notre manière d'être. Donc, il y a un changement de climat, il y a un changement d'ambiance. Est-ce que ça va aller à des changements doctrinaires? Non, mais ça peut peut-être créer un souffle et un rapprochement entre la société moderne et aussi une vieille institution qui a 1500 ans de pouvoir et qui avait tendance, dans les sociétés modernes, à exténuer, à ne plus respirer.
C'est une démarche qui se fait en rupture avec ce qu'a été le pontificat de Benoît XVI, Antoine Guggenheim. Benoît XVI, qui, rappelons-le, est encore... pape, non pas en exercice, mais qui a toujours le titre de pape. Et on imagine qu'ils discutent ensemble et que peut-être ces avancées-là se font avec l'accord de Benoît XVI, ou bien est-ce qu'on est vraiment dans un mode de rupture?
Alors, ce qu'il cherche à faire, c'est à faire sortir le cœur des chrétiens, des catholiques et pourquoi pas des autres, de l'anesthésie. Il appelle ça anesthésie du cœur par rapport aux immigrants illégaux à Lampedusa, comme par rapport à la question des personnes homosexuelles. L'anesthésie du cœur, c'est que, comme dans l'Évangile, le respect de ce qui est transmis prend la place du contact avec les personnes. Au lieu d'être des intermédiaires entre des personnes et Dieu, c'est sa tâche quand même, il est pontifex, on devient des intermédiaires entre des personnes et un système de pensée, un système de normes. Et alors là, il y a un changement d'accent très fort, dont on ne peut pas dire que ça soit une continuité par rapport à ce qui a été dit par ses prédécesseurs immédiats.
C'est une façon de critiquer, de dire que le pape précédent était peut-être trop éloigné justement de ces...
La critique fait partie du travail des papes par rapport à leurs prédécesseurs, a toujours fait partie et continuera à en faire partie, évidemment. Et lui-même sera critiqué par ses successeurs sur des points, évidemment.
Mais est-ce que vous pensez que nous sommes en train de renouer avec un pape des pauvres? Le premier acte est d'être allé à Lampedusa, précisément sur une île où sont accueillis les volontaires d'immigration qui sont des pauvres. Il multiplie les déclarations sur l'exclusion, le libéralisme, l'exclusion encore aujourd'hui. Il a parlé de solidarité, etc. Est-ce que l'Église est en train de renouer avec un pape qui est un pape des pauvres?
Et qui veut répondre à cette question, François Hervé?
Très clairement, oui. Je crois qu'il se présente comme tel. Et je pense que sa conversion, parce qu'on peut presque parler d'une conversion, quand il est devenu évêque, après avoir été supérieur des jésuites d'Argentine, ça a été justement ce contact avec cette découverte du monde de la pauvreté et les situations que les gens vivaient. Et soit c'est ça qui l'a fait... qu'il a ouvert, sinon à la modernité, au moins à la contemporanéité, à la situation effective vécu par les gens. C'est-à-dire pas au grand principe, très bien, mais qu'est-ce que vivent effectivement les gens ? Aller à la rencontre des gens. Et le fait qu'il ait été, qu'il ait beaucoup fréquenté des bidonvilles en Argentine, enfin qu'il était à l'aise manifestement, il est à l'aise dans ce type de milieu. Donc je crois qu'effectivement, pour lui, c'est fondamental.
Cette façon de s'impliquer, c'est aussi une façon de prendre position sur le plan politique, Olivier Bobineau. C'est toujours risqué de s'impliquer politiquement. Est-ce qu'un pape, d'abord, doit prendre des positions comme celle-là, ou bien est-ce qu'on n'attend pas avant tout qu'il soit le gardien du dogme et que ce qui est du domaine de l'actualité, soit peut-être sous-traité à d'autres peut-être représentants d'Église catholique, mais en tout cas pas au pape.
J'ajouterais juste que effectivement cette question est importante parce que l'intervention de l'Église sur la question du conflit syrien a joué un rôle très important à l'échelle du monde pour faire pencher la balance aussi du côté de la paix. Donc est-ce qu'on est aussi sur un retour de la papauté en politique au fond ?
Alors Olivier Bobineau et ensuite Antoine Guggenheim.
J'aimerais juste revenir, si vous permettez, deux secondes sur.
Alors deux secondes et après on répondra à nos questions.
Quand même, je ne crois pas que ça soit ça sa vraie originalité. Je me souviens et j'ai fait étudier à mes étudiants les encycliques de Jean XXIII, j'ai fait étudier les encycliques de Jean-Paul II, celui qui condamne le capitalisme, le libéralisme, il y a des papes avant, ceux qui sont proches de la pauvreté, ils n'innovent pas de ce point de vue-là, franchement, ils n'innovent pas. Alors peut-être qu'il y a des postures comme ça qui touchent, parce qu'il y a une communication, il y a des médias aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque, donc c'est pas en tant que tel de pape pauvre. En revanche, là où me semble-t-il, notamment dans son entretien à la Repubblica, et d'ailleurs le directeur du journal le souligne, il fait une révolution. C'est une révolution sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il dit deux choses étonnantes. La première, nous n'allons pas intervenir. Je suis pour la séparation moderne des églises et de l'État. L'État doit rester laïque, il le dit tel quel. Donc toutes les interventions, vous savez, toutes les contestations de loi, y compris sur l'IVG, sur la vie, il propose une distanciation avec les États laïques qu'il faut laisser à leur voie démocratique. Très intéressant. Et deuxième chose, en interne, si l'on peut dire, ad intra, pour reprendre le langage de l'Église, en interne, il va même jusqu'à dire certes, l'institution, l'Église en tant qu'institution, était dominée par l'attachement au pouvoir temporel de nombreux représentants et de hautes personnalités catholiques. Et je ferai tout pour quitter cela. Maintenant, à mon tour de vous poser une question sur le pouvoir. Très intéressant. Il observe que peut-être, dans cette institution, on est trop attaché au pouvoir, on a une conception trop politique, trop hiérarchique, qui vient d'en haut. Et de fait, aujourd'hui, véritablement, c'est là la révolution peut-être qu'il est en train de faire, il veut casser cette logique-là de domination politique par le haut. Jusqu'où va-t-il aller ? Je rappelle juste une chose à nos auditeurs, c'est que dans l'histoire de l'Église, il y a une période de 1414 à 1418 et 1437, durant lesquelles il va y avoir de la collégialité, durant lesquelles il va y avoir des discussions, sauf qu'à la fin, un pape va arriver, va siffler la fin de la récréation et dire « Les gars, on rentre tous, je suis le chef ».
Ça veut dire que la collégialité, là, elle n'aura qu'un temps d'après vous ?
C'est une question. La poussée d'Archimède catholique est toujours là. Combien de temps cela va-t-il durer ? Est-ce que, enfin, je peux poser une question grave. On sait qu'il y a des papes qui ont été tués, politiquement, physiquement, symboliquement, politiquement. Combien de temps un homme comme ça, qui fait une révolution interne, eh bien, cela peut-il durer ? C'est une vraie question que je me pose aujourd'hui.
Donc, s'engager sur le terrain politique, faire cette révolution, Antoine Guggenheim, c'est prendre un risque pour le pape François.
Alors, un risque physique, je laisserai...
Non, sans aller juste au risque physique, mais politique
avec,
en tout cas.
Sa liberté de propos. Je pense qu'une des spécificités de l'Église catholique dans l'histoire des religions, et ce qui intéresse évidemment les gens qui font de la politique, c'est qu'elle n'a jamais hésité à incarner ses idéaux, avec ses risques et périls. Les religions, ou même des églises chrétiennes qui les reportent à l'eschatologie pure, c'est abondant, voilà. Mais de dire, on va essayer de transformer ce monde-ci avec le risque de se mêler au pouvoir et d'en abuser ou d'en être déformé, c'est une des choses qui est les plus intéressantes dans la manière dont l'Église catholique, en Occident, a forgé les nations et à travers les nations, le début de ce qui a pu devenir une démocratie. Donc il ne peut pas se dégager de cette logique d'incarnation. Et dans cette logique, il aura à prendre position dans le débat public, et à ce moment-là, les médias seront moins de son côté, sur des questions relatives à la loi et à l'autorité. Parce que c'est un des problèmes de notre société, comment on fait exister dans une société très démocratique et horizontale des principes de transcendance. Transcendance de la vie singulière, transcendance de la culture.
Voilà. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont prêts à s'engager pour ça, mais par rapport au débat du post-humanisme, de la transformation de l'humain, il aura à prendre position. Par rapport au débat de l'Europe, des frontières de l'Europe ou de la construction européenne, il aura à prendre position. Et ça sera moins facile. Mais en ce moment, il se prépare le terrain d'être écoutable.
François Hevé, c'est aussi une question que je voudrais vous poser à nouveau Antoine Guggenheim. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le pape François ne se retrouve pas dans cette situation de s'impliquer sur le terrain politique ? En partie, notamment, du fait de la démission de Benoît XVI. Est-ce que, en désacralisant d'une certaine manière la fonction de pape, Benoît XVI n'a pas obligé son successeur à être davantage, c'est-à-dire dans la vie et dans le gouvernement des hommes, et peut-être un peu moins du côté de la foi. Enfin, moins du côté de la foi, en tout cas, moins de...
Dans un domaine un peu dans l'au-delà ou
voilà.
dans un
je cherchais le terme qui vous conviendrait
sur le domaine voilà. de l'âme
sur le trône sur le trône.
Ouais, je suis pas sûr parce que quand même ses prédécesseurs peut-être moins Benoît XVI mais Jean-Paul II a des prises de position politique quand même assez claires hein, dans différents c'est pas une nouveauté de ce point de vue là hein, d'être enfin Antoine Guggenheim le rappelait tout à l'heure enfin l'Église à différents niveaux a eu des prises de position politique parfois peut-être un peu trop à certains moments peut-être pas assez à d'autres enfin là-dessus c'est pas franchement une nouveauté me semble-t-il. Le fait que.
Mais en tout cas, sur l'impact qu'a pu avoir, en tout cas, la démission de Benoît XVI, alors, sur la façon de gouverner.
Je suis d'accord, oui. Je suis d'accord avec vous que l'acte de renonciation de Benoît XVI a marqué effectivement une certaine rupture par rapport à une image, je veux dire sacralisée, mais. Une image sacralisée qui pas le sacré fait retour en permanence dans le fonctionnement de l'Église, mais c'est pas très évangélique finalement de sacraliser une figure d'un côté un petit peu de la trique. Enfin, c'est un risque. Hein.
Vous faites beaucoup sourire Olivier Bobineau en disant ça.
Non, mais tout à fait.
Je pense qu'il sera pas complètement.
On a là, je crois, il y a quelque chose d'assez étonnant quand on a travaillé d'un point de vue exégétique sur l'Évangile, c'est que on voit que dans l'Évangile il y a 550 questions. On voit que dans l'Évangile, il y a plein de ruptures, ruptures générationnelles, ruptures par rapport à une tradition. Et donc, j'ai tendance à dire, en provoquant mes étudiants, j'ai tendance à dire que l'Évangile est très moderne. Et voilà une institution qui va arriver et qui va suspendre toutes ces questions, qui va mettre de côté toute la modernité de l'Évangile. Et là, on a un pape qui arrive et qui finalement fait un retour à l'Évangile. Mais jusqu'à quand va-t-il pouvoir poser ces questions, ces fameuses 550 questions d'autant plus qu'il réhabilite une notion qui quand même est assez étonnante, qui est l'agapé. C'est-à-dire que quand on interroge sur le pouvoir, il répond en disant « mais c'est l'agapé, c'est-à-dire l'amour ». L'amour en grec, qui revient 119 fois dans les évangiles. Donc, qui est vraiment le mot-clé. Et ça, c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'il y a un retour là à l'évangile de ce pape qui ne va pas faire que des personnes... Enfin, il ne va pas avoir que des personnes qui vont être d'accord avec lui.
Donc, finalement, vous répondriez à la question de ce soir. Le pape doit-il être moderne ? Oui, si on considère qu'il doit faire un retour à l'évangile.
Exactement.
Paul Masson.
Est-ce que il est justement engagé dans cette révolution interne dont vous parlez là, avec une refonte de la curie ? Est-ce que ce travail interne est nécessaire pour avancer un travail sur le dogme ? Est-ce qu'il faut un Vatican III ?
Ah, Antoine Guggenheim.
Je ne sais pas si je suis compétent pour la question ou pour la réponse. En tout cas, j'éviterai le mot de révolution parce qu'il appartient à notre imaginaire français, mais en fait, il peut être daté d'une époque où les crises sociales se résolvaient de cette manière-là, qui n'est plus forcément la nôtre aujourd'hui. La dernière grande révolution étant la révolution islamique, qui ne fait pas envie tellement d'être copiée. Mais évolution, et puis transformation profonde du système du gouvernement de l'Église, c'est évident. Et c'est un des objets intéressants à étudier, même dans les facultés de théologie. C'est-à-dire que l'Église, c'est quand même une institution étonnante, qui a traversé les siècles et qui est répandue dans le monde entier. Donc l'étudier elle-même, voir comment elle fonctionne, peut intéresser l'humanité, à mon avis, sur bien des points. Et l'humanité a bien des choses à dire dans les organismes qu'elle se donne pour se gouverner elle-même au plan mondial, qui peuvent intéresser l'Église. Ça, c'est clair qu'il y a beaucoup à inventer de ce côté-là.
Le porte-parole du Saint-Siège, Lombardi, vient de déclarer aujourd'hui même que le G8 n'était pas réuni pour des changements cosmétiques.
Alors je précise, hein, juste le G8, c'est la réunion des 8 cardinaux.
Hein,
c'est pas le G8 qu'on connaît
en économie. C'est bien ce que j'ai entendu, et donc moi je ne peux que me réjouir du fait qu'il y a un besoin dans le gouvernement de l'Église, comme dans toute institution humaine, de sans cesse se transformer en profondeur.
François Hevé.
Juste une petite remarque sur le mot dogme, parce que de fait, on l'emploie aujourd'hui de manière plutôt péjorative. Le dogme, c'est une proposition définitive qu'on ne peut pas modifier. Je crois, ce qui est frappant, alors ça c'est un peu le théologien qui parle, mais dans les premiers temps, les formulations dogmatiques, c'était des formulations, on peut dire, ouvertes, questionnantes. C'était presque des paradoxes. Je crois que c'est intéressant de revenir à ça, c'est-à-dire finalement le cœur du mystère, on ne peut pas l'exprimer dans des propositions positives. Il faut en rester, c'est la dimension mystique. C'est un point qui met beaucoup en valeur. C'est la dimension mystique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'ouvert. Il y a une quête, il y a une recherche permanente, et ça qui peut-être à retrouver précisément dans les expressions chrétiennes.
Olivier Bobineau.
Et d'ailleurs, à ce sujet, avec une petite remarque, dans l'interview à La Repubblica, c'est le directeur de ce journal qui appelle le pape révolutionnaire en italien. Donc ce n'est pas que dans la culture française, donc il peut être aussi révolutionnaire pour d'autres, peut-être, à voir. Sur ça, sur ce plan doctrinal, c'est très intéressant parce que pour un des personnages de référence, c'est François, pour le pape François, donc Saint François d'Assise, mais un autre personnage, c'est aussi Augustin d'Hippone, ce théologien. Et pourquoi est-ce que, pour le pape François, Augustin est important? C'est parce qu'il a changé doctrinalement, au fur et à mesure de sa vie. C'est-à-dire qu'il a fait une sorte de... Enfin, il s'est adapté, il a compris des choses dans le monde, et l'ouvrage préféré du pape François, c'est les confessions d'Augustin. Précisément, ce moment-là où Augustin s'imprègne du monde, retourne sur sa vie, fait un retour, et en fonction de ses sentiments, presque une œuvre psychologique avant l'heure, en fonction de ses sentiments, conçoit une transcendance et un rapport à Dieu nouveau, et à nouveau frais, d'une certaine façon. Donc je pense que là, aussi doctrinalement, peut-être qu'il peut changer, non pas la doctrine, mais peut-être la conception de la doctrine et la réception de la doctrine. On revient sur ce que je disais tout à l'heure, me semble-t-il, une manière peut-être d'être différent pour les catholiques dans ce monde moderne.
Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu au style du pape François, qui est sans doute le biais par lequel on peut aborder le plus facilement le nouveau pape, qu'on soit croyant ou surtout peut-être qu'on ne le soit pas. Je disais, début d'émission, de manière un petit peu ironique, c'est sans doute aujourd'hui le pape préféré de ceux qui ne croient pas en lui. Est-ce que ça ne risque pas, ça, Antoine Guggenheim, François Evé, de finir par lui poser problème, c'est-à-dire d'être à ce point œcuménique qu'il en oublierait d'abord sa communauté de croyants, ses fidèles? Et est-ce que aujourd'hui, vous sentez peut-être qu'il commence à y avoir peut-être des critiques au sein de l'Église catholique, où certains disent il ne faudrait peut-être pas qu'il aille trop loin non plus, François Evé.
Oui, des critiques, on commence à en voir apparaître. Bon, je pense que, enfin, il n'y a pas de risque. Il parle beaucoup de frontières, il parle beaucoup de frontières, de périphérie, de sortir de l'Église. C'est vrai. En même temps, je crois qu'il reste profondément un évêque et présent au centre.
Enfin, non, mais on peut être infidèle et se sentir peut-être un peu délaissé par ce pape qui finalement s'occupe autant de ceux qui ne sont pas croyants que de ceux qui le sont.
Oui, il y a différentes perceptions, mais. Je pense que c'est quelqu'un qui a suffisamment le sens de des personnes, la communication, etc., pour répondre à ceux qui peuvent être inquiets, qui peuvent effectivement être troublés parce qu'ils étaient habitués à tel type de formulation. Ils entendent quelqu'un qui parle de sinon de relativisme, au moins de vérité non absolue. Enfin bon, ils peuvent questionner et il répondra, je pense.
Enfin, sinon de relativisme, on y est presque, Olivier Bobineau.
Ah, mais tout à fait. Quand il dit que chacun sa conception du mal et du bien, et que chacun va suivre l'idée du mal et du bien qu'il a, quelle personnalisation des références, quel retour à l'individu. Et il ajoute, si chacun suivait sa propre idée du bien et du mal, le monde s'en porterait mieux. C'est en effet très 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 loin de Benoît XVI et de cette vérité absolue. Je pense que malgré tout, il y a déjà des plaintes. On a déjà sur Internet des lettres de femmes, notamment d'une femme mexicaine qu'il a bien connue, qui était une mère de 9 enfants, et qui dit que, en gros, si on peut résumer ça, finalement c'est la fonction sacrale, la fonction symbolique du pape chez Benoît XVI... Enfin, chez Benoît XVI, était valorisé, encore plus chez Jean-Paul II, avec son charisme, mais qui, chez le pape François, serait absente. Et la dame écrit pendant plusieurs pages en disant « Mais vous êtes l'évêque de Rome, vous n'êtes plus le pape, vous n'incarnez plus ce sacré, ce vicaire de Dieu, pour reprendre les conciles et les dogmes depuis le synode de 485 à Rome. » Et d'un seul coup, elle se retrouve complètement démunie. Je pense qu'elles sont nombreuses et nombreux à être démunies devant cet abandon de fonction sacrale du pape. Mais,
Antoine Guggenheim, juste pour répondre ensuite, ce sera vous, Paul Masson.
C'est bien, on arrive à un point qui est de fait celui de son authenticité et chrétienne et moderne, pour reprendre le mot qui nous est proposé. posée. Pour lui, tout se décide et tout passe par le cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les croyants et de l'autre les incroyants. Tout passe par le cœur de chacun. Et chaque cœur est aussi aimable, quel qu'il soit, et est traversé par une ligne qui est une ligne de débat qui lui est interne. La meilleure définition de la foi pour lui, c'est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle, et donc c'est une définition universelle. Il ne faut pas oublier, pour comprendre son audace, non seulement que c'est un jésuite, on l'a beaucoup dit, mais que c'est un jésuite d'Amérique latine. Je pense qu'un évêque d'Europe n'aurait pas eu cette liberté d'action avec un enracinement assez fort pour croire que le catholicisme était assez énergétique, avait un trésor assez intense au centre pour pouvoir être ouvert ainsi jusqu'aux périphéries. Il fallait quelqu'un aussi d'Amérique latine.
Mais le pape lui-même met dans cette question de modernité l'idée justement de s'adresser aux non-croyants. Il l'a dit plusieurs fois. Est-ce que c'est le signe qu'au fond l'Église est perçue comme trop repliée? Est-ce qu'elle se parle trop à elle-même? Est-ce que c'est une question qui devient urgente maintenant?
François V.
Il l'a dit plusieurs fois, oui. Il dénonce le côté autoréférentiel de l'Église. C'est-à-dire, finalement, d'être enfermé sur soi-même, être auto-centré et de se désintéresser de ce qui passe autour. C'est le syndrome sectaire. Le principe de la secte, c'est on regroupe les élus, ceux qui sont destinés au salut, et les autres, eh bien, on les laisse partir, tant pis, ils ont refusé le salut, ben, tant pis pour eux. Ça, c'est la secte. Alors, l'Église n'a jamais fonctionné, enfin, disons, en principe, bon, historien, pour mettre quelques nuances, mais enfin, en principe, l'Église a toujours eu cette ouverture, ces désirs d'ouverture assez universel et d'accueil. Et
en principe, est sans doute assez essentiel, hein, quand même, dans votre phrase.
Oui.
Il était... Je souligne en italique, si vous voulez, mais évangélique, revenons sur ce mot, justement d'accueil, pas d'accueil, j'allais dire, à fin de conversion, mais d'accueil parce que c'est sur la frontière que se fait la rencontre, que le principe de dialogue, le principe de rencontre, c'est ça qui construit, c'est la rencontre de l'autre. Qui construit quelque chose, qui bâtit quelque chose. Donc l'idée de rencontrer l'autre est tout à fait fondamentale.
Ça, c'est pas nouveau pour l'Église.
C'est pas nouveau dans son principe. Merci de le rappeler. C'est pas nouveau dans ce principe, mais ça n'a pas toujours été mis en œuvre de manière aussi claire. Voilà.
Un mot important aussi, pour aller dans la suite de mon prédécesseur, c'est aussi le mot qu'il emploie, c'est autosuffisance. On retrouve cette logique sectaire, mais autosuffisance, ça veut dire qu'on n'a pas besoin des autres. Et qu'on se replie dans une forteresse, et on se verrouille, et attention, on se protège. Là encore, il ouvre des portes, et je pense notamment, non seulement en termes de posture, non seulement en termes d'ambiance, de climat, mais aussi, et c'est ça qui peut être le plus étonnant, en direction des non-croyants. Il a un souci très particulier de la brebis égarée, hein, pour reprendre l'évangile. Et là-dessus, c'est vrai que par rapport à ses prédécesseurs qui s'adressaient aussi et d'abord au sérail, à la tribu, là on sent le souhait de ne plus convertir. Ne plus convertir, c'est quand même énorme, il y revient à deux reprises, ne plus convertir, et de proposer une autre conception de l'évangile. Ça, là-dessus, il se passe des choses. Il se passe des choses.
Pour combien de temps ? Guggenheim, c'est vous qui aurez le mot de la fin.
Il a dit dans cette belle interview qu'a publiée la revue Études qu'il voyait la situation de l'humanité aujourd'hui comme celle d'un hôpital de campagne. Voilà. Et que la mission était d'abord de soigner les blessures. Et donc il ne s'adresse pas d'abord à l'institution ecclésiale, même si elle est elle-même dans cet état d'un hôpital de campagne en temps de guerre. Mais il souhaite de fait que la rencontre de l'autre devienne pour la société la règle de base.
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Antoine Guggenheim, je rappelle... le titre de votre dernier livre. Non, c'est vous qui allez me le rappeler, puisque vous m'avez dit que vous en aviez publié un cet été.
Le dernier s'intitule La lumière de la foi, le titre est du pape François, et j'en ai fait une édition commentée avec Éric Morin.
Voilà, comme ça on sera complet. François EV, vous, c'est mathématiques, astronomie, biologie et soins des âmes, les jésuites et la science, aux éditions Lessius en 2012, et puis je renvoie surtout vers la revue Études et la publication et la traduction de cet entretien qu'a donné le pape à un certain nombre de revues jésuites à travers le monde. Olivier Bobineau, l'avenir en question, la fin des promesses religion et politique face à l'imprévisible, Charmant Collin, l'empire des papes, une sociologie du pouvoir dans l'église, aux éditions du CNRS.
Merci.
Et un grand merci à Paul Masson de
merci.
L'Humanité, notre journée cause commune avec l'UMA se poursuit. S'agissant du grain à moudre, nous nous retrouverons non pas demain, vous le savez, puisqu'il n'y en a pas le vendredi, mais lundi à partir de 18h20 pour poser la question suivante. suivante. Va-t-on vers un droit du travail à la carte ? C'est une question qu'on aurait pu traiter également avec l'humanité.